midi, 13h, le grand déballage avec Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous savez, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et en direct, nous sommes ensemble dans le grand déballage sur Beurre FM, tous les jours de 12h à 13h, parce que oui, nous devons continuer à faire vivre l'actualité, votre actualité. J'ouvrirai tout à l'heure le standard à partir de 12h35. Il n'y a pas de raison que vous-même, vous vous saisissiez de la parole. On parlera des vacances, camping, restaurant, déplacement, les pistes du gouvernement pour les vacances d'été, mais vous aussi. Est-ce que vous comptez partir en vacances cet été et comment vous comptez vous organiser? Ça se passe au 01 53 48 3000 à partir de 12h35. Pour l'heure, au sommaire, ce que je vous propose, eh bien, c'est de revenir et de passer en revue l'actualité. L'actualité, eh bien, concernant à la fois plusieurs choses. Le décret autorisant le traitement de l'hydroxychloroquine qui est abrogé. Le décret concernant évidemment cette chloroquine qui a fait débat. On parlera aussi, vous savez, du 28 juin. On reviendra sur l'actualité aussi qui secoue tout simplement la toile. On en parlera avec notre premier invité, Michel Taube, qui est le patron de Opinion Internationale, mais également aussi géopolitologue. On aura aussi tout à l'heure Olivier Noblecourt, qui est toujours candidat donc sur la ville de Grenoble. Avec lui, nous tenterons de comprendre pour quelles raisons il tacle Éric Piolle, l'actuel maire de Grenoble, qui l'accuse tout simplement de diviser la gauche. On tentera de comprendre tout cela. Voilà le menu que je vous propose. Je vous souhaite une excellente journée. C'est parti.
Beurre FM, l'actu c'est toi, le grand déballage avec Adil Farkan.
Et pour passer en revue l'actualité, c'est Michel Taube qui est avec nous. Bonjour mon cher Michel.
Bonjour Adil, bonjour aux auditeurs de Beurre FM.
Merci d'être avec nous Michel Taube, vous êtes géopolitologue, mais également le président fondateur de Opinion Internationale. J'ai été passé en revue ce matin, Opinion Internationale. Il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est votre, vous savez, billet d'humeur. Vous dites, les entrepreneurs et la déréglementation sont les clés de la relance économique française. Ça, c'était votre édito. Ça tombe bien parce que, vous savez, le gouvernement est en train de réfléchir tout simplement à la réouverture des cafés et des restaurants, des enjeux et des modalités.
Absolument.
Alors, mon cher Michel Taube, votre édito, j'aimerais qu'on en parle justement. Vous dites, en gros, la relance se fait par les entrepreneurs.
Absolument, la relance se fait par les entrepreneurs et je pense que les entrepreneurs, les entreprises, les cafés, les transporteurs, les entreprises, toutes les entreprises qui font vivre notre économie ont énormément souffert de la crise du coronavirus. On leur a imposé des mesures absolument drastiques et très autoritaires. Rappelez-vous, le 14 mars, elles avaient 4 heures pour fermer boutique, alors qu'elles auraient peut-être pu rester en partie ouvertes, en recevoir moins de monde. Enfin bon, on ne va pas refaire l'histoire.
Oui.
La réalité, c'est que le déconfinement,
oui,
qui a commencé le 11 mai,
oui,
pour le moment, tous les acteurs de notre économie n'en profitent pas, notamment les restaurants et les cafés. Et je pense que même en zone rouge, comme le demandent beaucoup d'acteurs, il faut pouvoir les rouvrir à une seule condition, le respect des gestes barrières. C'est toujours la même histoire.
Même si, tous Michel Taube, l'Île-de-France risque de passer et de basculer en zone verte?
Oui, alors déjà, premièrement, cette fameuse carte de France avec la zone verte et la zone rouge, permettez-moi d'en rire un petit peu parce que on a tenu en haleine tous les Français avec cette carte où en fait la seule différence c'était l'ouverture ou non des parcs et jardins et deux trois autres petits détails. Franchement, moi j'étais totalement contre cette distinction, mais enfin bon, c'est comme ça.
La réalité, et vous l'avez dit sur notre antenne.
La réalité sanitaire, de sécurité et la réalité économique, c'est que on sait très bien maintenant. On a été prévenu. Maintenant, on peut pas dire qu'on n'est pas au courant. On sait très bien qu'en portant un masque, en se lavant les mains de nombreuses fois, en respectant une distance physique d'un mètre ou un mètre et demi, on peut reprendre une activité normale en faisant simplement très attention. Et les restaurants, notamment, qui sont l'âme de notre pays, qui sont l'esprit de notre pays, on ne peut pas imaginer Paris et la France sans des restaurants,
oui,
doivent pouvoir revenir le plus vite possible. Donc effectivement, jeudi, Édouard Philippe, le Premier ministre, va annoncer jeudi après-midi les nouvelles étapes du confinement. J'espère vraiment que le plus rapidement possible, ils pourront revenir. Mais vous savez, c'est une question d'état d'esprit général. Il y a une super hyper réglementation qui a été imposée à tous les acteurs de l'économie pour traverser cette crise. Je pense qu'il faut faire confiance aux entrepreneurs, il faut faire confiance aux commerçants, il faut faire confiance aux Français, leur dire vous pouvez reprendre une vie normale, mais respectez les gestes barrières. Certaines villes comme la ville de Strasbourg, par exemple, qui est une petite ville, a décrété le port du masque obligatoire et le tribunal administratif lui a donné tort. Donc le tribunal administratif, c'est l'État, grosso modo, lui a donné tort parce qu'il ne voulait pas que ce soit obligatoire. Eh bien, je ne suis pas d'accord. Il faut rendre obligatoire le masque si c'est la condition pour rendre possible la reprise d'une activité économique normale.
Oui. Dites-moi, il y a quelque chose qui m'a frappé dans votre édito. Vous savez, vous faites référence à Gérard Darmanin, l'homme qui monte au gouvernement. Et oui, vous dites, peut-être que dans la classe politique, il évoque trois pistes de relance. La première, vous dites, vous nous parlez de la hausse des impôts. Puis ensuite, le rabotage de la sphère politique. Et le troisième, trouver beaucoup, beaucoup d'argent pour payer la facture des secours déjà engagés par l'État.
Alors, expliquez-nous. Écoutez, moi, je n'ai pas peur de le dire, je suis un libéral. Je suis pour la liberté d'entreprendre. Je pense que le plan de relance, le meilleur plan de relance, ce serait de dire aux Français, écoutez, on va augmenter les salaires des Français les plus modestes, notamment les soignants, d'accord ? Les livreurs, les caissières, tous ceux qui ont tenu la France à bout de bras pendant ces deux, trois mois de crise. On va vous augmenter vos salaires. 300 euros par mois pour tout le monde. Ça va coûter très cher. Mais en contrepartie, on libéralise l'économie au maximum.
Oui.
On autorise les commerçants à ouvrir samedi et dimanche. On autorise les commerçants à ouvrir le soir s'ils le veulent jusqu'à minuit. On revient sur les 35 heures qui sont un non-sens économique. Oui. Bref, on libéralise l'économie. On augmente vos salaires parce qu'ils ne sont pas corrects, vos salaires. On vous les augmente, mais vous laissez la liberté des entrepreneurs fonctionner. Et là, je vais vous dire, ça va donner un sacré coup de fouet. Les vacances qui viennent, les mois de juillet, août qui arrivent là, très très vite, certains Français, ceux qui en ont les moyens, vont se payer des vacances, mais il y en a plein qui vont devoir trimer et travailler très très dur pour pouvoir rattraper un petit peu une part de ce qu'ils ont perdu en mars et avril. Eh bien, laissons-les travailler. Donc c'est ça, la vraie relance qui va permettre effectivement de payer la facture de tout ce qu'aura coûté cette crise, c'est de dire au travail, on augmente les salaires des plus modestes, mais il faut libéraliser la société beaucoup plus, parce que franchement, tout le monde l'a dit, sur le plan de, ne serait-ce qu'au niveau de l'hôpital, il y a eu des barrières administratives, des freins administratifs, il y a une tutelle de l'État qui est beaucoup, beaucoup trop lourde, et celle-ci, il faut l'alléger, et ça fait partie aussi des solutions pour réussir la relance. Donc oui, je pense que effectivement, on peut relancer l'économie française, qui a pris un très très grand coup sur la nuque, mais il faut libéraliser toutes les énergies.
Ouais, dites-moi, vous faites d'ailleurs allusion, on a vu Emmanuel Macron, on a parlé sur l'usine Renault qui prévoirait de supprimer 5000 postes en France. Emmanuel Macron, le président de la République, lui promet d'augmenter les salaires, en tout cas, voilà, sous la forme de primes ou autre. Est-ce que ça vous interpelle ?
Alors moi, je vais vous dire franchement, ce qui m'interpelle, c'est la chose suivante. Lorsque le président de la République était à Mulhouse, c'était maintenant il y a 2 mois déjà.
Oui.
À Mulhouse, rappelez-vous, c'était l'hôpital militaire qui a été construit à côté de l'hôpital civil. Et il a fait une conférence de presse. Il a dit aux soignants, je vais augmenter vos salaires. Vous allez recevoir une prime. 2 mois après, les soignants n'ont toujours pas touché cette prime.
Oui.
Là, on nous annonce un grand plan d'investissement.
Merci de nous le rappeler.
Voilà, Nicole Nota a été nommée pour proposer sous 2 mois un grand, grand plan pour l'hôpital, un énième plan pour l'hôpital. Et le Premier ministre a annoncé que les salaires des soignants allaient augmenter bientôt. Mais pourquoi ne pas commencer par cela ? C'est quand même pas difficile d'augmenter les salaires. Tous les Français sont d'accord pour dire que nos soignants ne gagnent pas assez. La France est un des derniers pays d'Europe en termes de niveau de salaire pour les infirmiers et les aides-soignantes. Donc, pourquoi attendre ? Pourquoi attendre ? Il faut donner des signes très forts. Et si on attend trop, qu'est-ce qu'on va avoir ? On va avoir la colère sociale. On va avoir de nouveau des gilets jaunes et des blouses blanches qui vont bloquer le pays. Donc il n'y a pas 36 solutions. Les milliards qui ont été mobilisés, 500 milliards de l'Union européenne, 300 milliards par-ci, 500 milliards par-là, très bien, mais mettons-les sur des signes très forts, immédiatement visibles dans le porte-monnaie des Français. Et compensons ce coût excessif par dire, en disant... aux entreprises, vous pouvez ouvrir le week-end. Ceux qui veulent rattraper le retard et qui veulent ouvrir le week-end, qui puissent l'ouvrir sans que la CGT et d'autres s'y opposent. Ceux qui veulent travailler la nuit, ils peuvent le faire. C'est ça le compromis.
Michel Taube, c'est très intéressant ce que vous êtes en train de me dire là, Michel Taube. Très intéressant ce que vous êtes en train de me dire. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous nous alertez effectivement aujourd'hui qu'il y a une grosse urgence. Et avec cette urgence, si on ne tire pas les leçons maintenant et si on ne donne pas un signal très fort, vous êtes en train de nous faire comprendre, Michel Taube, qu'on risque de retrouver les gilets jaunes et évidemment réinvestir les rues et qu'on risque d'avoir une crise sociale ?
Ah ben évidemment, moi je pense vraiment. Regardez, il y a quelques jours, il y a eu devant l'hôpital Robert Debré dans le nord de Paris, une très très grande manifestation du collectif Interurgence où étaient présents également des gilets jaunes. Actuellement, les gilets jaunes sont en train de s'organiser pour essayer de se doter d'un porte-parole. Je pense que les choses effectivement peuvent revenir. Il y a, comme je l'ai écrit dans de nombreux éditos, il y a une colère française. Il y a une colère française. Elle s'est manifestée une première fois avec la crise des gilets jaunes. Elle s'est manifestée une deuxième fois avec la crise des retraites. Elle peut se manifester une troisième fois sur les dégâts économiques que va causer la crise du coronavirus. Parce qu'il va y avoir, là, ces jours-ci, nous sommes à la fin du mois de mai et à la fin du mois de juin, de très nombreux licenciements. Des entreprises qui ne peuvent pas payer leurs collaborateurs. Il va y avoir des cessations de paiement. Il y a déjà des dépôts de bilan. Donc, il va y avoir des centaines de milliers de chômeurs, peut-être des millions de chômeurs. Donc, ça va rajouter de la colère à la colère.
Je note quand même, on dit partout que malgré un rebond de la consommation en France, depuis le 11 mai, la récession va s'amplifier. Alors, expliquez-nous, parce qu'il y a la crise économique qui risque, effectivement, comme vous nous venez très justement de nous le rappeler, qu'elle risque d'être pire, en tout cas dans les semaines, en tout cas au deuxième trimestre. Mais en même temps, l'activité reprend, mais le PIB, lui, chute. Il devrait chuter. Et pas des moindres, puisqu'on parle de 20%.
Exactement. Et la vérité est peut-être entre les deux. C'est-à-dire que le gouvernement a pris des mesures sparadrap, on va dire, de court terme, notamment avec le chômage, la prise en charge du chômage partiel. Mais le problème, c'est qu'il y a un ressort qui a été cassé. C'est qu'on a cassé le ressort de l'économie et que dans plein de secteurs d'activité, l'activité va avoir du mal à reprendre. Il y a la restauration, il y a le tourisme, il y a des secteurs entiers qui vont même disparaître. Je donne un exemple très simple. Les distributeurs de machines à café sur les lieux de travail, vous savez, avec les petits verres en
carton. On est concerné, par exemple, ici dans le studio, on en a un.
Ce secteur, il est mort actuellement.
Ouais. Je vous confirme, je ne le vois plus, monsieur, d'ailleurs. Nous venons ravitailler.
Et donc, si vous voulez, il y a beaucoup de secteurs de l'économie, malheureusement, qui ne vont pas pouvoir se redresser à court terme. Il y en a le secteur des spectacles, de la culture. Certains disent que ce n'est pas avant 2022 que reviendra une activité normale. Donc, si vous voulez, effectivement, malheureusement, la réalité, c'est que, quelles que soient les mesures macroéconomiques et beaucoup de communications qui nous sont assénées tous les jours, la réalité, c'est que il va y avoir beaucoup de licenciements, beaucoup de faillites d'entreprises, et que ça va être très très dur de l'éviter. Et donc tout ça va rajouter de la colère à la colère, et le seul moyen de l'éviter, c'est de donner des gestes très très forts, et en même temps de libéraliser l'économie au maximum. Vraiment, je vois pas d'autre solution, sinon vous allez voir, on va avoir des manifestations très très rapidement, et les gens n'atteindront pas 2022 pour sanctionner l'exécutif.
Oui, très juste. Vous avez raison de nous rappeler tout ça. Dernier sujet sur lequel j'aimerais évidemment qu'on apporte un regard particulier et en essayant de le décrypter. Alors, c'est l'histoire du de la chloroquine. Le traitement l'hydroxychloroquine. Je ne comprends plus rien. Expliquez-nous, mon cher Michel Taube. Un coup, c'est bon. Un coup, c'est plus bon. Maintenant, c'est abrogé. Maintenant, c'est interdit en France. Mais c'est le bordel, mon cher Michel.
Bon, alors déjà, c'est pas pour faire ma pub, mais je vous invite à lire mon édito de ce matin, où je me suis malheureusement bien amusé, et qui s'appelle « La potion hydroxychloromagique
du druide
Raoulix ». la communauté scientifique tombe dans la marmite du ridicule.
Ouais, je l'ai lu.
Où je convoque notre ami Astérix pour faire un peu l'arbitre entre Raoult et les autres médecins. Non, la réalité, c'est dramatique. C'est que déjà les Français n'avaient pas confiance dans les politiques, ils n'avaient pas confiance dans les journalistes. Là, je ne sais pas s'ils vont avoir confiance encore dans les médecins. Parce que les médecins se font la guerre actuellement.
06-41
Et ils se font la guerre terriblement sur cette histoire de chloroquine. Moi, ce que je pense très clairement, c'est que dans de très nombreux pays, notamment dans toute l'Afrique, on a utilisé la chloroquine pour l'administrer oui. à des personnes qui avaient les premiers symptômes du coronavirus. C'était vraiment au début. Quand les personnes avaient les premiers signes de détresse respiratoire. C'est-à-dire, dès que quelqu'un commençait à avoir du mal à respirer ou commençait à perdre le goût et les saveurs ou avait beaucoup de fièvre, on lui disait « tu prends de la chloroquine ». Et c'est au début, tout au début, qu'il fallait le prendre. Le docteur Raoult, il n'a jamais dit autre chose. Il a toujours dit « si vous donnez la chloroquine trop tard, elle ne sert à rien ».
C'est vrai.
D'accord ?
C'est vrai.
Et la réalité, c'est que ça, c'est quelque chose qui a fonctionné dans le sud de la France, qui a fonctionné beaucoup en Afrique, qui a fonctionné aussi beaucoup dans certains États américains et beaucoup en Asie. Et je pense effectivement que les médecins sont en train de s'affronter en disant, et ça va très très loin, des médecins qui sont en relation étroite avec les laboratoires pharmaceutiques qui sont en train de se faire une course de vitesse pour déposer le futur brevet du vaccin contre le coronavirus ouais. qui va rapporter des milliards. Et là, les Français ne savent plus quoi faire. Et pire, les médecins. Moi, j'ai confiance dans mon médecin. C'est un très, très bon médecin de ville que j'ai. Eh bien, lui, s'il me dit « je vous conseille d'utiliser la chloroquine », je n'ai pas de raison de ne ouais. pas le croire. Ouais. Et ce n'est pas le ministre de la Santé qui va appeler ouais. pour lui dire « écoutez, est-ce que mon médecin a tort de me le prescrire ouais. ?» Donc, effectivement, c'est un peu triste ce à quoi on assiste actuellement et ça va causer des dégâts importants ouais. en termes d'image de la médecine en France.
Merci, mon cher Michel Taube, pour votre décryptage, votre analyse pointue. Toujours ici sur l'antenne de Beurre FM dans le grand déballage. On vous retrouve très vite.
À très très vite, à très bientôt.
À très bientôt, merci encore. Prenez soin de vous, mon cher Michel Taube. Vous êtes géopolitologue. Merci bien. Et vous êtes également le président fondateur d'Opinion Internationale. Et j'invite évidemment tous nos auditeurs à aller découvrir ces éditos. Tiens, avant de marquer la pub, vous savez, j'ai Karim des Jumeaux. Bonjour Karim.
Bonjour Karim.
Bonjour, bonjour.
Karim, alors lui, c'est le fondateur et le patron, vous savez, de cette fameuse boucherie Les Jumeaux à Port-Delila. Évidemment, je ne la présente même plus, vous êtes extrêmement connu. Vous savez ce que je vais vous proposer, Karim, parce que ce que vient de dire Michel Taube, c'est très intéressant. Eh bien, j'aimerais avoir un regard d'un chef d'entreprise comme vous. On va marquer une courte pause pub et on reviendra, parce que vous vous dites, ils doivent arrêter de taxer des heures supplémentaires. Eh bien, vous avez raison. Vous avez raison. Karim, je marque une pause pub et je vous retrouve après.
Allez.
À tout de suite.
Pas de soucis.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Eh oui, le grand déballage en direct, 12h24, si vous venez de nous rejoindre. Il fait beau, tout va bien, mais en revanche, bien sûr, l'actualité continue de ravager nos esprits. Évidemment, je l'amène de façon triviale, mais elle continue d'occuper notre esprit. Alors, pour parler, vous savez, de ce que vient de nous décrypter Michel Taube, je vais accueillir un invité. Il s'appelle Karim, c'est le fondateur, il est chef d'entreprise, fondateur de cette fameuse, vous savez, boucherie à Porte des Lilas, les frères jumeaux, les jumeaux. On en parle tout de suite parce que, évidemment, il a son mot à dire concernant, évidemment, Michel Taube vient d'appuyer, là où ça fait mal, l'économie française, nos commerçants, comment s'en sortent-ils ?
Beurre FM, l'actu c'est toi, le grand déballage avec Adil Farkan.
Alors, les jumeaux incarnés par Karim, le fondateur, un des fondateurs, puisqu'il est le frère jumeau aussi. Karim, merci d'être avec nous. Vous êtes chef d'entreprise.
Merci.
Vous êtes
merci
évidemment un éminent donc dans la boucherie, hein, la vôtre d'ailleurs. J'ai eu le loisir d'ailleurs de passer il y a quelques semaines, et c'est des longues files d'attente d'ailleurs. C'est toujours le cas.
Il y a toujours du monde. Il y a toujours du monde. On connaît un succès depuis plusieurs années. Grâce à Dieu, On fait du chiffre, on travaille, tout est positif.
Comment vous gérez vos histoires de déconfinement? Est-ce que vous respectez les barrières de distanciation? J'ai eu l'occasion de le voir, oui, mais comment ça se passe? Vous avez dû revoir votre dispositif au sein de votre boucherie?
Alors, la première, c'est qu'on a un vigile qui est à la boutique tout le temps pour faire respecter les distances de sécurité. Après, il faut dire une autre chose qui est vraie, malheureusement, c'est que, parce que ça va pas plaire à tout le monde, c'est que j'ai une clientèle civilisée. Du coup, ils savent attendre, ils savent patienter, ils savent respecter les distances de sécurité. C'est pas ce que j'ai pu voir dans d'autres magasins. On a de la chance où on a le client qui est vraiment compréhensif dessus, qu'il a le masque et il respecte les distances, quoi. On a mis à disposition du gel hydroalcoolique, mais depuis le début du confinement, et vraiment le fait d'avoir un vigile, ça impose un peu, quoi.
Ça impose un peu. Vos salariés, eux, sont évidemment ont tous un masque, hein, et voire peut-être des visières parfois, je vois.
Ils ont un masque. Il y en a qui ont des visières. On a fait le test la semaine dernière. On a fait ramener un médecin en boutique. On a fait tous le test. On est tous négatifs.
Oui.
Donc, alhamdoulilah, tout va bien, quoi. J'ai une très bonne équipe. Mes salariés, ils ont bien travaillé pendant le confinement. Ils sont motivés. Ils aiment ce qu'ils font. J'ai que des passionnés. Du coup, c'est un avantage aussi parce que j'ai des amis entrepreneurs où tous les ouvriers sont partis.
Oui.
Et là, une grosse majorité, ils ont eu peur, etc. J'ai un sur tous mes salariés qui voulait faire ça. Je lui dis, mais écoute, le confinement, il va rester encore, le corona, il va rester plusieurs années, tu vois.
Ouais.
Du coup, c'est un que tu quittes la boucherie parce que tu vas te retrouver dans 3 ou 4 mois, chez toi, tu auras plus de revenus, tu auras plus rien. Donc, du coup, c'est pas une bonne statistique que ce que tu fais. Donc, non, j'ai pas eu de soucis, quoi. Tout s'est bien passé.
Je m'adresse au chef d'entreprise, Karim, que vous représentez. Justement, vous dites, qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'ils doivent arrêter de taxer les heures supplémentaires quand on parle de crise économique. Expliquez-nous les raisons, évidemment, de ce que vous nous apportez.
Alors, aujourd'hui, en France, il y a beaucoup de travail. Il y a du boulot pour tout le monde. Il y a beaucoup de chômage, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a beaucoup de chômage. Parce que les taxes sont énormes. Vous prenez, par exemple, quelqu'un que je vais payer 2000 euros. Oui.
Oui, oui, je suis là, je suis avec vous.
Allô, allô?
Non, mais vous êtes en direct, on vous entend très bien, mon cher Karim.
Ça a coupé, je sais pas pourquoi. Vous prenez par exemple un salarié qui va être payé 2000 euros, d'accord? Vous allez payer 1800 euros de charge. Du coup, en fait, le salarié au final, il va vous coûter presque 4000 euros.
Oui.
Ok. Pour faire 4000 euros, il faut que je fasse à peu près 15 à 16 000 euros de chiffre d'affaires.
Oui.
Donc, il faut carburer, quoi. Le problème qu'il y a, c'est que moi, j'ai des ouvriers qui veulent faire des heures supplémentaires. Une heure supplémentaire, ça me coûte extrêmement cher. Aujourd'hui, en France, c'est ça le problème. C'est qu'il faut respecter les gens qui veulent faire leurs 35 heures, qui font leurs 35 heures, il n'y a pas de souci. Ceux qui veulent faire plus, qui font plus. Mais on n'a pas à nous taxer énormément. Moi, j'ai un salarié, par exemple, et il me dit, écoute, Karim, si je fais des heures sup, si je fais tout ça, le problème c'est qu'à la fin du mois, je vais me retrouver à payer tellement d'impôts qu'au fait un SMIG, ça me reviendrait, j'aurais plus d'argent en ayant un SMIG.
Oui.
Vous voyez ce que je dis?
C'est
un cercle vicieux. Il faut respecter les gens.
Vous militez pour justement comment?
Il faut respecter les gens qui travaillent, c'est tout. Ceux qui veulent faire 35 heures et pas travailler le samedi dimanche, qu'ils le fassent. Mais ceux qui veulent travailler la nuit et le jour pour faire une santé économique,
oui,
qu'ils le fassent. Mais il faut que la France arrête de taxer autant les gens, c'est trop.
Donc
c'est
là, trop. Vous, c'est quoi? C'est le ras-le-bol. C'est le chef d'entreprise qui lance un cri d'alarme, qui lance un coup de gueule.
Bah, vous voyez, moi, par exemple, aujourd'hui, on est une vingtaine à la boucherie. Si j'avais pas autant de charges à payer, j'aurais pu avoir beaucoup plus. Pourquoi? Parce que j'aimerais quelqu'un à l'accueil qui fasse des dégustations à tous mes clients. D'accord? J'aimerais quelqu'un qui puisse porter les sacs à mes clients jusqu'à leur voiture. Mais je peux pas. Combien ça va me coûter de faire ça?
Oui.
Et je vais pas augmenter les prix. Déjà qu'on est sur d'une viande qui est assez chère parce que c'est de la viande haut de gamme. Je peux pas rajouter de l'argent pour ce service-là. Normalement, il doit être compris dedans.
Oui, ça vous a traversé l'esprit? Est-ce qu'à un moment, durant on est en pleine crise et on est en pleine situation effectivement extrêmement complexe concernant cette crise sanitaire, Karim. Est-ce que vous, chef d'entreprise, vous vous êtes, ça a effleuré effleurer un peu votre esprit en vous disant, finalement, je vais devoir licencier des salariés.
Non, parce qu'on a, augmenté notre chiffre d'affaires.
Oui.
Donc non, mais moi j'ai plutôt tendance à penser...
Mais est-ce que vous avez une visibilité à court moyen terme? Parce que la crise, paraît-elle, s'annonce au deuxième trimestre.
Pour mon secteur, non. Pour mon secteur, pas du tout. Je pense qu'on va augmenter le chiffre encore. Pourquoi? Parce que les gens sont revenus dans l'essentiel. Avant, les gens se braquaient sur les vêtements, sur les choses de luxe, sur les voyages, etc. Avec ce qui se passe, ils vont préférer manger une bonne pâtisserie, manger de la bonne viande, mais quelque chose de luxueux, mettre le prix là-dessus, que mettre le prix sur des vêtements ou sur un voyage, etc. Du coup, je pense que le secteur de l'agent va plutôt augmenter, mais dans le haut de gamme. D'accord. Et oui. tout ce qui est tourisme, tout ce qui est vêtements, etc. Je pense que le secteur va baisser, selon moi, parce que les gens ils sont revenus à l'essentiel en fait. Moi je l'ai vu.
Quand vous dites qu'ils sont revenus à l'essentiel, tiens, attendez, monsieur le chef d'entreprise. Quand vous dites qu'ils sont revenus à l'essentiel, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire qu'en fait, on a vécu l'apocalypse au début du confinement. Il y avait dans la rue des bagarres, les gens achetaient des milliers de
vêtements
de chez. Vous voyez ce que je veux dire?
Du coup, c'est vrai.
Moi, j'ai eu une centaine et des centaines de personnes végétariennes, soi-disant, qui reviennent en boutique en me disant on va prendre un peu de viande. Pourquoi? Parce qu'ils se sentent comme en danger. Et du coup, l'être humain, pour se protéger inconsciemment, il va manger de la viande, il va manger du poisson, tout ce qui va, il dit les légumes, tout est psychologique, hein. Mais moi c'est la critique, c'est le constat que j'observe en fait. J'ai eu des centaines de végétariens, c'est fini, ils s'en foutent, le véganisme, tout ça, c'est du cinéma en fait.
Ah oui, c'est intéressant ce que vous êtes en train de nous dire.
L'Empire romain. Tous les siècles précédents avec des gros empires, ils ont tous disparu à cause justement des virus, la peste, etc., etc. Ouais. Là, ça fait plusieurs décennies qu'on n'a pas vécu la guerre. On a tout oublié. Du coup, excusez-moi, mais c'est du tménique qu'on veut, quoi. C'est que du cinéma qu'on cherche. Ouais. Et du coup, le confinement, ça a réveillé un peu l'être humain en disant, mais non, ce qu'il nous faut, c'est l'essentiel, en fait. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est la bouffe. C'est avoir un bon lit pour dormir. C'est prendre soin de sa santé. Et on va arrêter ces petits chichis, en fait. Et je pense que ça a mis une claque à tout le monde. Et ça a réveillé toutes les consciences, en fait.
Vous savez, je m'adresse toujours au chef d'entreprise, Karim. Vous savez que, évidemment, le coronavirus, la crise sanitaire, est venu fragiliser, évidemment, celles et ceux qui déjà étaient extrêmement fragiles. Je veux faire référence à ceux qui étaient dans des emplois précaires. Aujourd'hui, dans votre boucherie, est-ce que vous avez le sentiment plutôt que les gens consomment moins ou consomment un peu plus? En gros, ma question va être plus précise. Est-ce que ceux qui sont les habitués chez vous achètent beaucoup moins qu'avant?
Alors moi, en général, les clients qui sont fidèles chez moi, ils achètent moins de viande. Parce que vu que la viande qu'on propose, il n'y a pas d'antibiotiques, c'est élevé en plein air, on ressent inconsciemment moins l'envie de manger de la viande. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a tous les apports énergétiques, etc. On le retrouve mais 100 fois plus dans ma viande qu'une viande industrielle. Du coup, par conséquent, un client chez moi, avec le temps, il va toujours acheter moins parce qu'il va se dire « je préfère ». En fait, il ressent plus le besoin de manger de la viande tous les jours, en fait. Et ça, c'est le travail qu'on fait depuis des années. Et sans exception, tous mes clients font ça au début. Ils achètent des grosses quantités parce que c'est nouveau. Ils connaissent pas. Mais après, au bout de 3 mois, ils commencent à baisser leur niveau de nourriture. Après, j'ai quelques clients parce que la crise, ça touche quasiment tout le monde. Et je sais qu'il y a des clients qui n'ont plus les moyens. Du coup, ils vont acheter, au lieu d'acheter un filet de bœuf, Ils vont acheter du rhum sec, par exemple. Ouais. Ils vont acheter de la viande hachée. Ils vont pas s'acheter des choses qui coûtent extrêmement cher pour le plaisir. Vous voyez, ils vont acheter vraiment l'essentiel.
Oui. Bon.
Et c'est du coup, ça, oui, on le remarque.
C'est vrai. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui nous écoutent, puisqu'on va devoir marquer une pause pub?
Moi, si j'ai un message à faire passer, ça sera uniquement aux jeunes. d'arrêter de se faire manipuler par le système et d'arrêter avec vos 35 heures, etc. Si tu veux réussir dans ta vie, travaille, c'est tout. Ne compte que sur toi-même et juste travaille. T'occupe pas des gens, des lois, etc. Ce qu'il faut, c'est s'en sortir. Pour s'en sortir, il faut travailler. Moi, j'ai fait mon apprentissage gratuitement. J'ai travaillé pendant des années. En fait, c'est simple. J'ai commencé à toucher 600 euros de salaire quand j'avais 25 ans. Oui. Alors que j'avais déjà 5 ans d'ancienneté dans la boucherie. Pourquoi ? Parce que je m'en fous. En fait, apprenez un métier. Apprenez votre travail. Et ensuite, vous ferez de l'argent après. Mais d'abord, apprenez. Ne vous laissez pas envahir par les gens qui vous parlent de 35 heures et de je ne sais quoi. Ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est de travailler, de créer votre patrimoine, de créer votre avenir. Et avec la méthode française, c'est un peu compliqué. Moi, je sais, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Pourquoi ? Parce que moi, je suis parti de rien. Et j'ai réussi grâce à ça, grâce à cette méthode-là. Il faut juste être motivé et avoir du courage et écouter son cœur. Ne pas écouter les gens, écouter son cœur. Si vous avez un projet, faites-le.
Eh bien, voilà. Écoutez, bravo pour votre coup de gueule. Bravo. Ben, en tout cas, un coup de gueule qui est bien noté dans le grand déballage. Karim, chef d'entreprise, fondateur avec son frangin, son frère.
Avec Slim, oui.
Avec Slim, qu'on salue aussi chaleureusement. Franchement, j'invite tous nos auditeurs à aller venir vous saluer. Hein, dans votre boucherie à Port-des-Lilas, donc les jumeaux, les frères jumeaux.
Avec merci. Plaisir.
Merci, Karim.
À très, très
et
vite.
Et on vous souhaite bon courage.
À très, très vite. Merci beaucoup. Au revoir.
12h36, on va retrouver, ça y est, on l'a, je vais aller direction Grenoble pour retrouver, vous savez, celui que vous connaissez aussi, il s'appelle Olivier Noblecourt. Bonjour Olivier Noblecourt.
Bonjour Adil.
Olivier, on a tenté en vain de vous joindre, mon cher Olivier, vous savez ce que je propose ?
Oui, j'ai un gros problème de réseau à Grenoble, on a des soucis en ce moment, mais
qu'est-ce ça y est, c'est tout réglé. Qu'est-ce qui se passe à Grenoble ? On vous a cassé votre antenne ?
Il y a eu des antennes de cassé, oui, en effet, ouais. Il y a quelques semaines, mais tout va bien.
Bon, Olivier Noblecourt, je le rappelle, qui a évidemment participé très activement au municipal à Grenoble. Olivier, on marque juste une courte page.
Bien sûr.
Et on se retrouve juste après. À tout de suite.
Le grand déballage revient dans un instant. Beurre FM, midi 13h, le grand déballage avec Adil Farkan.
Et oui, il est 12h42 dans le grand déballage sur Beurre FM, bien sûr. Et vous êtes nombreux aussi à vouloir évidemment exprimer votre point de vue concernant l'actualité. On va au instant tenter d'ouvrir l'antenne. Allez, pour l'heure, je vais accueillir Olivier Noblecourt. Vous savez qui, lui, met les pieds dans le plat. Il accuse Éric Piolle de diviser la gauche et on va parler du second tour avec lui.
Beurre FM, l'actu c'est toi, le grand déballage avec Adil Farkan.
Olivier Noblecourt, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous en direct. Dites-moi, Olivier, vous aviez rassemblé durant ce premier tour, le premier tour dernier, je fais référence aux élections municipales, vous aviez fait un score qui était donc de un peu plus de 13%, me semble-t-il, de mémoire. Et puis, aujourd'hui, vous accusez le maire actuel de Grenoble. Pour quelle raison ?
Non, je ne porte pas d'accusation. Je constate qu'il y a un écart entre les actes. Et vous savez que les écarts entre la parole et les actes, c'est ça qui tue la politique et qui fait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui n'y croient plus. Oui. À Grenoble, vous avez, depuis plusieurs décennies, une gauche écologiste assez radicale qui existe et qui est au pouvoir depuis maintenant 6 ans dans notre ville. Vous avez une autre gauche, plutôt une gauche de transformation sociale, que j'ai incarnée et qui a rassemblé 5 mouvements politiques et des militants associatifs, des responsables, des gens de la société civile. Et on a fait un score décevant. En effet, tout simplement parce que on a été très haut dans les quartiers populaires, mais là où la participation était la plus faible à cause de la crise du Covid. Donc, on a subi certainement le fait qu'il y a une mode de vote écologique, il y a une aspiration aujourd'hui tout à fait légitime et normale à vouloir plus d'écologie dans les politiques publiques, mais on a aujourd'hui une mairie qui a fait très peu pour les quartiers populaires et pour les enjeux sociaux pendant 6 ans, qui a même détruit un certain nombre de services, et nous, une liste très ancrée au contraire dans les quartiers et sur la réalité sociale que vivent les plus fragiles de notre société. Et ce qui vient de se passer montre que finalement, on avait peut-être vu juste sur les vrais besoins prioritaires aujourd'hui pour les habitantes et les habitants. Et il se trouve que, alors que au niveau national, beaucoup de gens prêchent, et Éric Piolle parmi d'autres, pour que la gauche soit capable de se rassembler dans les différentes sensibilités, au moment où je vous parle, il semble qu'Éric Piolle, lui, ne souhaite pas se rassembler.
Mais justement, vous dites à sortir du 49-3 permanent. J'aimerais juste qu'on s'attarde un peu sur à sortir du 49-3. Expliquez-nous Olivier Noblecourt.
C'est une formule que j'ai sortie, c'est une formule que j'ai utilisée pendant la campagne du premier tour, donc elle date un petit peu, notamment au moment où on accusait le gouvernement de faire preuve d'autoritarisme en utilisant le 49-3 pour la réforme des retraites. Bon, depuis, on sait ce qui en est advenu. Mais le 49-3 permanent, c'est en fait le dirigisme autoritaire, c'est-à-dire l'incapacité à écouter les gens qui pensent différemment.
Oui.
Et à Grenoble, nous sommes dans une ville où beaucoup d'acteurs associatifs, d'acteurs culturels, c'est facile à vérifier en deux clics sur Internet, se sont plaints pendant ces 6 dernières années d'un autoritarisme municipal, d'une incapacité à écouter. Et quand vous avez été élu, c'est le cas d'Éric Piolle, par une petite minorité des Grenoblois en 2014, on verra ce qu'il en sera au deuxième tour là, normalement vous essayez d'ouvrir le jeu, vous êtes à l'écoute des autres, et le rôle d'un maire c'est de rassembler sur son territoire. Moi j'appelle Éric Piolle à être le maire de tous les Grenoblois et donc à être capable de rassembler au-delà de ceux qui sont d'accord avec lui sur tout.
Justement, parlons-en. On a une très grosse audience, et vous le savez, sur Grenoble. On a beaucoup, beaucoup d'auditeurs. Vous dites, à l'époque, vous disiez, en pleine, évidemment, campagne, vous disiez, nous sommes la seule liste à incarner une véritable alternative crédible pour Grenoble. Aujourd'hui, vous dites quoi ?
Ah ben, on dit la même chose, sauf que le contexte politique fait que Éric Piolle a été placé très en tête au sort du premier tour. Donc c'est une alternative qui a finalement peu de chances de gagner dès le second tour ce coup-là, mais c'est une alternative qui doit vivre pendant les 6 prochaines années, et c'est très important, y compris face à la méthode de gouvernance et face à l'autoritarisme municipal, qui est des contre-pouvoirs à Grenoble, et qui est des gens qui portent la voix des plus fragiles et des quartiers populaires au conseil municipal. Moi, je vis dans les quartiers, je suis depuis 25 ans engagé sur ces sujets, j'ai beaucoup de colistiers qui portent au quotidien et qui ont été très présents d'ailleurs dans la crise du Covid, dans la distribution alimentaire, dans l'aide à tout le secteur associatif, pour faire jouer la solidarité sur le terrain, y compris parce que la puissance publique ne pouvait pas tout faire dans cette période. Et donc, moi, je dis aujourd'hui, cette alternative, peut-être qu'elle ne gagne pas le premier coup, mais ce n'est pas pour ça qu'elle n'est pas pertinente. On sait qu'aujourd'hui, il y a besoin de femmes et d'hommes politiques qui gardent le cap de la solidarité et de la priorité aux plus vulnérables. Et c'est ce cap-là que nous tiendrons pendant les 6 prochaines années.
Certains adversaires, évidemment, font parler d'eux. Je fais référence aussi, vous savez, notamment à... particulièrement, vous dites, vous, ne pas craindre cette percée d'Alain Carignon.
Ah, mais il n'y a aucune percée d'Alain Carignon. À Grenoble, la réalité politique, elle est toujours la même. Au premier tour, vous avez 2/3 de vote à gauche et 1/3 à droite. Ça a été la même chose ce coup-là, c'est-à-dire que vous avez Alain Carignon qui a fait 20%, avec l'extrême droite qui s'est effondrée, donc Carignon a été élu, a eu un score qui, pour la moitié, est un score qui vient des voix d'extrême droite et de droite dure, et pour l'autre, de la droite LR traditionnelle. Et 20%, c'est un mauvais score. Il fait moins de voix que le précédent candidat de droite il y a 6 ans, donc il n'y a pas de quoi de parler de percée du tout. Et par ailleurs, il y a En Marche qui a pris 13%, elle a fait le même score que moi, à 100 voix près, de voix de droite modérée. Donc en fait, Carignon plus sa candidate En Marche, ça fait 1/3 de Grenoble. C'est le tiers qui va du centre droit jusqu'à l'extrême droite.
Bah voilà,
mais Alain Carignon fait un score mauvais en réalité pour la droite grenobloise.
Alors, dites-moi Olivier Noblecourt, justement, le 28 juin, c'est une date qui est fixée. Désormais, c'est le second tour. Quelle alliance
pour
ce second tour ? Quid du second ? J'aimerais connaître vos intentions.
Le second... Nos intentions, elles sont très claires. C'est que nous avons dit depuis le départ que nous serions dans la clarté des principes. Vous savez, il n'y a rien de pire en politique, je le disais en première intervention, que lorsque les paroles ne sont pas cohérentes avec les actes. Il n'y a rien de pire aussi que les gens qui changent d'avis comme de chemise. Donc nous, on a dit depuis le début qu'on était un rassemblement ancré à gauche et qu'on resterait ancré à gauche et qu'il n'y aurait pas de fusion avec En Marche.
Oui, parce que vous incarnez, le Parti Socialiste, vous, hein. Faut le rappeler.
Oui, pas seulement. Et 4 autres mouvements politiques de gauche. Donc, pas seulement le Parti Socialiste. Moi, j'en ai été membre pendant 25 ans. Je n'y suis plus, mais je suis resté de pensée et de conviction socialiste, bien évidemment, même si je ne suis plus dans la politique partisane parce que ça m'intéresse pas. Mais fondamentalement, nous sommes et nous resterons une équipe de gauche. Nous sommes favorables à un rassemblement de la gauche. Et donc, normalement, c'est la règle qui prévaut dans toutes les villes. C'est la liste arrivée en tête qui est responsable du rassemblement. C'est quand vous êtes fort que vous devez faire preuve d'un peu de grandeur d'esprit et de capacité à rassembler ceux avec qui vous n'êtes pas d'accord sur tout. Ça, c'est la responsabilité d'Éric Piolle. Visiblement, il n'en veut pas.
Oui,
donc,
il n'en veut pas.
Il n'y a pas de rassemblement de la gauche.
Donc, il ne veut pas de cette alliance.
Pour l'instant, c'est ce qu'on nous dit. Et donc, partant de là, il reste encore quelques jours. Donc, moi, j'appelle Éric Piolle à se ressaisir en la matière et à mettre en cohérence ses paroles et ses actes, tout simplement. Mais en même temps, moi, je ne cherche pas des postes. Je ne cherche pas à être à tout prix dans une majorité. Et ce que je défendrai, que ce soit de manière autonome ou dans une majorité, c'est la priorité aux quartiers populaires, aux populations vulnérables, à la question de l'emploi qui est absolument centrale, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont peur pour leur emploi ou qui ont peur de ne pas en trouver quand ils n'en ont pas. Donc, on va vers une crise économique et vers une crise sociale durable. Donc, il y a besoin de gens qui sont capables d'avoir des convictions au long cours en la matière.
Alors, pourquoi ça coince avec Éric Piolle, le maire actuel ?
Parce que je pense qu'Éric Piolle, en dehors des grands discours qui peuvent être tenus sur des valeurs humanistes généreuses, est quelqu'un qui est très enfermé dans ses certitudes et dans un petit groupe autour de lui qui veut garder tout le pouvoir et qui veut ne pas composer avec des gens qui ne sont pas totalement d'accord avec eux. Donc, ouais. Il y a une culture, en effet, très dirigiste, très autoritaire, qu'on connaît bien à l'extrême gauche, hein, qui est une culture un peu radicale où ils veulent avoir raison tout seul. Moi, je pense qu'en politique, on n'a jamais raison tout seul.
Alors, comment va se dérouler ce second tour ? C'est vrai, on parle d'une campagne, évidemment, avec très peu de moyens. On parle même d'une campagne, d'ailleurs, qui ne risque pas d'être visible partout en France. Comment va se dérouler la vôtre ?
Nous, d'abord, elle va se dérouler dans la proximité, puisqu'on a la chance d'avoir sur notre liste énormément de militants associatifs et de gens qui sont présents sur le terrain. Donc, nous, on n'a pas besoin de faire des grandes opérations de communication pour être présents. On y est. Et donc, on va d'abord passer par le lien humain, par la proximité. On va passer par les réseaux sociaux, bien évidemment, parce que c'est un moyen indispensable de se renseigner, de s'informer pour nos concitoyens. On espère, et merci de me donner la parole aujourd'hui, que les médias vont jouer le jeu des débats locaux. Je suis demandeur et preneur d'avoir des débats. Je pense que ça éclaire à chaque fois les gens. Et à chaque fois qu'on a pu débattre avec Éric Piolle, Alain Carignon, Émilie Chalas, les gens ont pu voir les différences. Et je crois que c'est bien, ça permet de se forger son avis. Et puis, on va porter dans le débat public, dans des réunions virtuelles, et puis dans quelques temps de mobilisation sur l'espace public, des propositions très fortes, avec des priorités qui, elles, n'ont pas changé, parce que nous, on ne fait pas partie des gens qui découvrent les réalités sociales avec la crise du Covid. Donc nous, les priorités, c'était avant la crise, la solidarité, l'emploi, l'éducation. Ça restera après la crise, la solidarité, l'emploi, l'éducation. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui et de gamins à Grenoble qui se sentent livrés à eux-mêmes et qui n'ont pas de perspectives suffisantes et d'accompagnement suffisant.
Oui, parce que, pardonnez-moi, mais je me permets de vous poser la question. Les inégalités, elles se sont davantage creusées, Olivier Noblecourt.
Exactement, exactement. Vous savez, moi j'ai écrit une tribune dans Le Monde il y a une semaine pour dénoncer le fait que cette crise avait aggravé et rendu encore plus visible les inégalités et qu'aujourd'hui ça appelle à créer de nouvelles réponses. Je ne crois plus aux grandes réponses uniquement portées par l'État tout seul. Moi, je crois à l'intelligence des gens sur le terrain et je pense qu'il faut leur donner des outils pour créer eux-mêmes les réponses. Et d'ailleurs, c'est ce que font les citoyens. Il y a beaucoup de citoyens qui n'attendent plus des politiques qui trouvent les solutions. Et les solutions, ils les créent eux-mêmes. Et donc, c'est pour ça que j'ai parlé de la création d'un revenu de base local, c'est-à-dire comment on garantit localement l'accès aux biens et services essentiels, à l'alimentation, au logement, à la santé, à l'éducation, à la mobilité, au numérique, aux gens. Et donc ça, on a déjà commencé à le faire quand j'étais élu à Grenoble. On avait créé des dispositifs qui avaient d'ailleurs été supprimés par Éric Piolle. Il faut reprendre cette histoire grenobloise de capacité à innover, à créer des nouveaux outils de solidarité. C'est ce que nous proposons avec la liste que je conduis, Grenoble Nouvelle Ère.
Dites-moi un dernier mot pour celles et ceux qui nous écoutent sur Grenoble. Pour le 28, vous leur dites quoi, Olivier Noblecourt ?
Je leur dis que le 28 juin, ils ont à choisir entre faire en sorte que rien ne change, continuer avec les mêmes pour la même politique, et depuis 6 ans, la situation des plus fragiles, elle s'est pas améliorée, soit se donner les moyens de changer. C'est les moyens de enfin changer pour de vrai les priorités et donner enfin aux plus vulnérables la place qu'ils doivent avoir dans nos politiques publiques. Et donc le 28 juin, le choix, c'est pas est-ce qu'on est plus ou moins telle ou telle étiquette. Le choix, c'est est-ce qu'on pense que les priorités doivent être changées. Si on pense qu'elles doivent être changées, eh ben nous serons la liste et nous serons les élus capables, avec la compétence qu'est la nôtre, avec l'expérience qu'est la nôtre, de porter ce changement de priorité dans la majorité ou dans la minorité. Ce qui compte, c'est l'authenticité et la constance dans les convictions, et c'est ce qui nous habite.
Merci infiniment, Olivier Noblecourt, d'avoir été en direct avec nous.
Merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée.
Évidemment, on aura certainement l'occasion de se retrouver avant le 28 juin.
À votre disposition.
En direct. Merci. Bon courage à vous sur Grenoble. 12h54, nous arrivons. Au revoir. À très bientôt. 12h54, nous arrivons au terme de cette émission. J'ouvrirai l'antenne, bien sûr, pour vous permettre aussi d'exprimer votre point de vue, puisqu'on va parler des grandes vacances bientôt, de la période estivale qui nous concerne tous. Est-ce qu'on a encore les moyens de faire, évidemment, des vacances ? C'est la question qu'on se pose. Bon, merci à Nicolas à la réalisation. Et puis, vous savez, les programmes continuent sur Beurre FM. À demain, notez bien, 12h, 13h, le grand déballage. en direct avec autant de plaisir. Portez-vous bien.
Retrouvez le grand déballage tous les jours de midi à 13h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.